Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Republican members of the Electoral College, this message is for you. As you know, our founding fathers built the
Ils ont voulu y croire jusqu'au bout. Dans cette vidéo, plusieurs personnalités américaines, dont l'acteur Martin Sheen, que vous entendez, appelaient ces dernières semaines, ces derniers jours surtout, les grands électeurs à ne pas voter Donald Trump. Leur mobilisation n'aura pas suffi. Hier soir, Donald Trump a obtenu la majorité des voix des grands électeurs, 304, l'avant-dernière étape du long processus présidentiel américain, avant la dernière étape qui sera évidemment l'investiture au mois de janvier. Le milliardaire sera donc bien le 45e président des États-Unis. À l'origine de cette révolte d'une partie des électeurs américains, l'écart de voix entre Donald Trump et Hillary Clinton, 2,7 millions en faveur de la candidate démocrate. C'est pourtant Donald Trump qui a été élu car il a eu les électeurs dans les bons états. Une situation qui a relancé le débat sur le système des grands électeurs qui a été inventé par les pères fondateurs et qui apparaît aujourd'hui aux yeux de certains comme la trahison d'un principe on ne peut plus démocratique, mais on va peut-être en débattre. Un homme, une voix. Alors faut-il réformer le système électoral américain? C'est le débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. François Durpère, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien des États-Unis, maître de conférences à l'université de Cergy-Pontoise, auteur de nombreux livres, dont une série qui a retenu notre attention, de deux bandes dessinées, La Présidente, tome 1 et 2. Et dans le tome 2, eh bien, c'est Donald Trump qui est le président. Vous avez eu du pif, si je puis me permettre l'expression. Deuxième invité, Constance Borde, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-présidente de Democrats Abroad France, c'est-à-dire la représentante en France du Parti démocrate. Alors Constance Borde, est-ce que hier vous espériez une surprise ?
Non, je n'attendais pas de surprise parce qu'il aurait fallu quoi, 38 électeurs qui désistent. On savait très bien que ce n'était pas possible, mais on a vu quelque chose d'assez historique, on va en parler quand même.
Alors vous faites référence à ces 8 grands électeurs qui finalement n'ont pas voté selon la loi. En fait, ils n'ont pas vraiment respecté ce qu'ils auraient dû faire.
C'est tout à fait, c'est une première, c'est un first.
Et est-ce que vous iriez jusqu'à dire que Donald Trump ne méritait pas la victoire ou à cause de ce grand écart de voix, vous n'allez pas aussi loin?
Selon les règles que nous pratiquons en ce moment encore aux États-Unis, c'est-à-dire le collège électoral, il le méritait parce qu'il a gagné les majorités dans des endroits où il aurait pu avoir un électeur. Donc il a gagné, oui.
Il a joué le jeu. Alors c'est intéressant ça, François Durpère, un petit peu comme Hillary Clinton. Eh bien, les responsables démocrates n'ont en fait pas contesté vraiment cette victoire malgré cet énorme écart de voix, hein, plus de 2 millions, presque 3. Alors pourquoi? Parce que ce système électoral, cette loi électorale, c'est un totem aux États-Unis.
Parce que les États-Unis sont des États-Unis. Tout est dit. C'est pas un État centralisé. La démocratie procède des États. D'ailleurs, à l'origine, dans la Constitution de 1787, dans la clause 2, section 1 de l'article 2 de la Constitution, puisque l'article 1 concerne le pouvoir législatif, l'article 2 est consacré au pouvoir exécutif, il est bien expliqué que chaque État désigne ses propres grands électeurs. Donc, ce sont les États qui font le président, et ensuite est venue la question du vote démocratique populaire. Mais à l'origine, dans la Constitution, ça procède bien des États. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement peut-être à une vision que l'on a lorsque l'on est français ou francophone, ou qu'on est issu de ces États centralisés, où seule la démocratie est la démocratie du nombre de citoyens qui votent, eh bien, aux États-Unis, c'est autre chose. C'est une synthèse entre la démocratie des États et la démocratie populaire. Alors, est-ce que ça veut dire que rien ne peut être touché, rien ne peut être réformé? Non, parce qu'il y a une hypothèse d'école, mais qui est quand même intéressante à soulever. On pourrait imaginer un président gagnant l'élection présidentielle avec 20% seulement du vote populaire. Vous imaginez, 20% du vote populaire.
Ça, c'est si on poussait le système à bout.
Si on poussait le système à bout. C'est-à-dire que ça veut dire que si vous perdez de très très peu les États que vous perdez, si vous gagnez massivement les États que vous gagnez. Donc, c'est là, qu'est-ce qui est en jeu? La règle du winner, celui qui gagne tout,
gagne la majorité, qui gagne la majorité. Tous les grands électeurs dans chaque État.
Ça veut dire, par exemple, vous avez 20 grands électeurs en Pennsylvanie. Vous remportez d'une voix la Pennsylvanie, vous remportez les 20. Vous perdez d'une voix, vous perdez les 20. Ben, cette règle du « je gagne tout » fait que vous pouvez avoir un vote qui est finalement, qui apparaît comme injuste. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple?
Vous voulez dire finalement, oui, c'est que si l'un avait remporté seulement 20% des voix, on serait allé au bout du système et que là peut-être que ça aurait été trop radical et que ça aurait suscité un réel mouvement, c'est ça ce que vous dites?
Constance
Borne, oui.
Le problème est plus technique et même plus banal, je pense, que ce que dit François. Il a tout à fait raison dans tout ce qu'il a dit, mais le problème, c'est que c'est très difficile de changer la Constitution. Donc, on cherche une autre méthode où on peut avoir un système avec des électeurs, mais où les électeurs reflètent plutôt proportionnellement le vote qui a été donné.
Mais alors, je me permets de vous couper parce que finalement, là, ça fait seulement 5 minutes qu'on discute de cette question. Vu de France, on a quand même l'impression que finalement, ce système, il n'est pas du tout critiqué aux États-Unis ou finalement par une petite majorité. Mais ce que vous nous montrez là, c'est pas du tout. C'est un vrai débat qui traverse le camp démocrate, aussi le camp républicain.
Le camp républicain, un peu moins, parce que, heureusement pour eux, c'est pas eux qui ont souffert dans
les deux
dernières élections. Et aussi, ça favorise certains États rurales, par exemple. Et ça, c'était le but au début, de donner plus de pouvoir aux États qui avaient moins de population, si vous voulez. Mais le problème, c'est que pour changer cette loi, on est obligé de passer par 2/3 du Congrès. Et aussi, il faut que le 3/4 des États votent pour.
Et c'est ce qui signifie que des petits États qui en bénéficient devraient voter pour une modification.
Et c'est là où on... Parce que si vous demandez, si vous regardez les sondages, il y a quand même 72% de la population qui reconnaît que ce n'est pas logique et que ce n'est pas démocratique. Donc ce n'est pas ne pas vouloir changer cette chose, c'est qu'on ne sait pas manuellement techniquement le changer et arriver à avoir tous les États d'accord, presque tous les États, et en plus ensuite de changer d'avoir le Congrès voter pour ça.
François Durpère?
Oui, il y a le fait de pas pouvoir le faire, parce qu'évidemment, toucher à cette cathédrale qui est la Constitution, comme vient de l'expliquer Constance, c'est très difficile, voire impossible, et c'était la volonté des pères fondateurs de faire en sorte que cette cathédrale qui est la Constitution, on la visite aux États-Unis. To visit Constitution, on va visiter la Constitution, qui est sous verre, hein, comme on visite les cathédrales quand on vient en France. Et c'est dur à toucher, mais aussi parce que c'est quand même la philosophie de départ, même si...
Alors c'est ça, j'allais vous demander la genèse finalement de ce texte fondateur, de cette Constitution.
Les pères fondateurs se méfient de la tyrannie. Ils veulent créer une constitution qui évite le risque de tyrannie. Alors, de tyrannie.
Et protéger les minorités.
Bien sûr.
La constitution est plutôt pour protéger.
Alors, peut-être d'abord le premier rempart contre la tyrannie. On reviendra ensuite aux autres bénéficiaires.
Alors, la tyrannie, pour les pères fondateurs, ça peut être la tyrannie. Ils parlent du roi d'Angleterre. Hein. D'ailleurs, ils ne critiquent pas le Parlement anglais, ce qui est très étonnant. Évidemment, on est en pleine guerre d'indépendance. Et puis ensuite, on touche pas à la question du Parlement. Parce qu'évidemment, on crée un congrès, etc. C'est vraiment le tyran, c'est le roi d'Angleterre. Et puis, le peuple. C'est-à-dire qu'il y a aussi une possibilité de tyrannie populaire, presque, vous voyez...
Donc on crée un corps électoral intermédiaire.
Démagogique. Alors, donc on crée effectivement ce système de grands électeurs. Ensuite, après, on vient évidemment sur une démocratie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment se construit ce pays à l'origine? Pourquoi il y a un Sénat, par exemple, une Chambre des représentants? Vous avez bien l'équilibre, parce que le fait de le bicaméralisme, on le connaît partout en Europe. Mais là, on a vraiment une justification. C'est que d'un côté, on a le Sénat, où vous avez 2 sénateurs par État, c'est l'émanation de la démocratie des États. C'est-à-dire que vous soyez un petit État comme le Connecticut ou un gros État comme la Virginie, à l'origine, vous avez 2 sénateurs. Et puis la démocratie populaire, j'allais dire à la française, à l'européenne, où là, bien, les représentants, c'est proportionnel au nombre de la population. Alors, qu'est-ce qui pourrait être envisagé? Là, on pourrait déjà faire une première proposition. C'est que vous avez déjà 2 États, le Maine et le Nebraska, qui fonctionnent de manière proportionnelle, hein, et pas avec le winner takes all où vous gagnez tous les grands électeurs. Alors, les propositions vont un peu dans ce sens-là.
Donc, en fait,
en disant,
ce serait pas forcément revoir le système du collège électoral, mais la proportion accordée
la proportionnalité,
à chaque État.
Exactement.
Constance Bord là-dessus. La raison pour laquelle la jeunesse, comme vous le dites, de cette pratique, disons, c'est que, Il y avait une élite dans les colonies, absolument. Et puis, il y avait des esclaves aussi. Donc, on ne voulait pas compter les esclaves. Les femmes n'étaient pas comptées. Et on voulait quand même réserver le pouvoir de décision aux hommes extraordinaires, d'ailleurs. Donc, à ce moment-là, en ce temps-là, c'était peut-être logique de dire il faut quand même qu'on fait une sorte de screening où on ne peut pas laisser passer un vote à toute la population.
Donc, mais alors justement, vous venez de dire le mot important, en ce temps-là. Est-ce qu'aujourd'hui, cette philosophie, elle est encore valable et audible dans les États-Unis de l'année 2016 et bientôt 2017, Constance Bord?
Pas selon notre notion de la démocratie aujourd'hui. C'était pas la même notion à l'époque. Pour de bien ou de mal, aujourd'hui, nous sommes dans une autre démocratie en Amérique et dans le monde.
Et François Durper disait tout à l'heure que cette loi électorale, ce système électoral avait aussi favorisé une forme d'équilibre. On dit aussi qu'il a favorisé les grands partis, donc une forme de stabilité politique. Est-ce que ça, c'est une qualité que vous reconnaissez au système politique actuel?
Non, la stabilité des deux partis, vous voulez dire, le fait de n'avoir que deux partis.
C'est ce que disent certains qui soutiennent la loi électorale aujourd'hui.
Il y a une certaine stabilité dans les deux partis. C'est que les deux partis, cette fois-ci, au moins, ont mal mené le jeu. Et le problème avec les partis qui n'ont pas de pouvoir, ne sont pas puissantes, ou qui sont peut-être même corrompus, ça présente un problème quand vous n'avez que deux partis.
Alors François Durper, peut-être je voulais vous faire réagir à une déclaration alors qui date de l'ancien directeur de campagne d'Al Gore en 2000, qui avait perdu un peu dans les mêmes conditions qu'Hillary Clinton et qui avait dit que pour lui finalement le remède serait presque pire puisque ça défavoriserait l'équilibre, la stabilité qu'a créé la loi électorale. Est-ce que c'est un argument effectivement qu'on entend beaucoup aux États-Unis? Est-ce que la stabilité ça fait partie du système?
Ce système, on l'appelle checks and balances. Donc, c'est l'équilibre est très important. Il est au cœur. C'est d'inspiration. On devrait, quand on connaît la philosophie des Lumières, se rappeler que c'est aussi d'inspiration. C'est Montesquieu. L'équilibre des pouvoirs, c'est un pouvoir qui précisément génère sa propre faiblesse, ses propres contre-pouvoirs pour toujours éviter le risque tyrannique. On dit tout le temps, mais voilà, regardez ce président, il est bloqué par son congrès. Les congrès, là par exemple, Rex Tillerson nommé secrétaire d'État par Trump. Oui, mais déjà, il faut que le Sénat soit d'accord. Bon, mais ça, c'est prévu par les pères fondateurs. C'est-à-dire que il y a des contre-pouvoirs puissants. Hein. On fonde vraiment une démocratie. Et la démocratie, c'est quoi? C'est un régime qui n'est pas tyrannique. Donc la faiblesse fait partie de l'identité de ce système-là. Oui, le président n'est pas tout puissant. Alors, ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'il y a une autre critique. Ce vote, il peut apparaître injuste, mais il peut paraître aussi inutile dans certains États. Regardez, par exemple, quand vous êtes en Californie. Bon, Californie compte le plus grand nombre de grands électeurs, mais la Californie, vous dites que c'est pas la peine de voter parce que de toute façon, la Californie est démocrate et archi bleue. Alors que vous votiez ou pas, ça change pas grand chose. Pareil pour l'État de New York. Pareil pour le Texas dans l'autre sens, qui est rouge. Donc vous voyez, là, c'est l'idée d'un vote inutile. Vous êtes dans un État, et des gros États. Hein, pas
vous
la peine de se déplacer.
Vous savez très bien que si votre candidat perd par 3 points, tout le vote, toutes les votes électoraux, vont aller à l'opposition.
Alors, sauf dans les deux États que signalait tout à l'heure François Durper, est-ce que, à votre avis, Constance Bord, c'est une bonne idée, une bonne piste de réforme que d'introduire la proportionnalité dans chacun des États? Est-ce que ça fait son chemin?
Ça a été essayé plusieurs fois, mais sans grand succès. Il y a deux possibilités. On peut dire qu'on compte chaque conscription proportionnellement. Si vous gagnez 40%, vous n'êtes pas la gagnante. La personne avec 60% gagne. Mais vous gagnez 40% des votes électoraux. Donc, ça semble normal. Ça n'a jamais eu de succès aux États-Unis.
Parce que les Américains ne sont pas habitués à ce système, finalement, ils ne veulent pas vraiment de réforme.
Il y a deux raisons.
François Durper.
Il y a la première chose, c'est qu'effectivement, il y a quand même cette philosophie d'équilibre entre le vote populaire et le vote des États. Mais il y a aussi quelque chose de tout simple. C'est que celui qui gagne l'élection, il serait le moteur d'un éventuel changement. Or, lui, il vient de bénéficier d'un système. Alors, je vous donne deux exemples. Réformer, par exemple, la question des relations entre l'argent et l'élection. Vous avez Barack Obama, qui en 2008 dit ce système, il est quand même inacceptable, c'est vraiment celui qui a le plus d'argent, qui en bénéficie, qui peut gagner. Puis il arrive à lever beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et beaucoup moins critique ensuite concernant le financement des campagnes électorales. Deuxième exemple, Donald Trump, c'est quand même celui qui en 2012 dit c'est le pire des systèmes.
Oui, système démocratique, alors il a tweeté, je l'ai en anglais, des Electoral College is a disaster for democracy en 2012, juste après l'élection. Donc a priori, on peut se dire il est sensibilisé à la question.
Et puis alors donc c'est désastreux avant qu'il gagne. Et imaginez d'ailleurs s'il avait perdu, il aurait dit on ne sait pas, c'est le système, c'est pas du tout la démocratie, etc. Là il a gagné. Alors il trouve évidemment de bonnes raisons à dire que la démocratie américaine est formidable et que le système fonctionne bien. Donc si vous voulez, celui qui gagne, qui pourrait être l'éventuel moteur de la réforme, mais il n'a aucun intérêt à transformer cela. Mais ça, j'allais dire que ce n'est pas seulement américain, hein, ça fonctionne dans beaucoup de démocraties comme ça.
Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a 11 États qui ont déjà opté pour avoir un système, parce qu'il y a un grand mouvement aux États-Unis depuis très longtemps. D'ailleurs, je viens de lire aujourd'hui...
5 millions de personnes ont signé la pétition, c'est pas rien. Hein.
Depuis 80 ans, à tous les 4 ans, a condamné le système électoral américain. Donc, ce n'est pas nouveau du tout. Ce n'est pas juste avec cette élection-là. Si. Mais il y a un grand mouvement. Il y a déjà 11 États qui sont pour. C'est-à-dire, c'est que les électeurs sont obligés de voter pour ceux qui ont gagné le vote populaire. Et malheureusement, cette loi ne peut pas être mise en pratique avant qu'ils aient 270 électeurs. Et pour le moment, ils n'ont que 165, je pense.
Donc, ça avance.
Oui, 165, 11 États qui ont déjà opté pour le système, mais ils ne peuvent pas le pratiquer avant d'arriver à 270.
Et François Durper, vous nous disiez aussi tout à l'heure qu'il y avait cet argument ce sentiment plutôt d'avoir un vote inutile. Est-ce que justement, si on retourne le problème en se disant ça permettrait de lutter contre l'abstention que de réformer le système américain, parce qu'il n'y a qu'un électeur américain inscrit sur deux qui vote, est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui fonctionne aussi, vu évidemment la période qu'on traverse au niveau démocratique dans le monde entier et particulièrement aux États-Unis.
Mais je réponds pour François.
Allez-y,
hein,
parce
que moi, je sais en pratique, parce que je suis sur le terrain, je vois que si vous habitez dans un État rouge, il n'y a presque pas de raison d'aller voter. Vous savez que votre vote ne pourrait pas être compté si vous êtes dans une conscription rouge. Alors, pourquoi aller? Et tout le monde dit que le taux de vote aux États-Unis est horriblement basse. Et c'est sûrement la raison. Que ça soit dans les États démocrates ou que ça soit dans les États républicains.
Vous êtes d'accord, François Durper?
Bien sûr. Est-ce que vous avez beaucoup d'équipes de RFI ou de France 24 qui sont allées en Californie pendant cette campagne
Alors, en l'occurrence, oui.
Oui, bah parce que c'est sympa, la Californie.
qui a fait un road trip pour tâter le terrain. Mais bon, effectivement, des États qui sont moins dans la loupe des médias.
Bien sûr, c'est moins intéressant parce que vous préférez aller dans l'Ohio ou dans des États qui vont être les fameux États clés.
Merci beaucoup, c'est déjà la fin de ce débat. Merci à François Durper, historien, Constance Borde, représentante du Parti démocrate en France. Merci également à Valentin Vaner et à Florence Pons. On se retrouve demain pour un nouveau débat avec la majorité à 16 ans.